Express, tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 16 Gaou et ses invités dans le Club de la Presse. Tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas trop rencontré quelqu'un, quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Nous sommes le vendredi 7 avril 2023, il sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous, les fidèles et bienveillants auditeurs de Club La Presse sur les antennes de Radio Canal FM Lomé ici ou encore sur Radio Courtoisie à Dapao, Radio Sama FM à Baga à côté de Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Central FM à Sokoré, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé ou encore Radio Lumière à Nero ici. Mais nous vous saluons également, citoyens du monde, vous qui nous recevez par le biais de divers canaux et autres médias numériques. Nous témoignons notre gratitude aux techniciens qui réalisent l'émission. Aujourd'hui, c'est le duo Thomas Datevi et Jérôme Kodjo Akucha. Comment ne pas remercier les confrères et autres personnes ressources qui très spontanément défile dans ce studio du lundi au vendredi. À chaque fois que nous les sollicitons, Canal FM, le Club La Presse, nous vous disons infiniment merci et nous vous recommandons à la toute miséricorde du Tout-Puissant et Miséricordieux. Aujourd'hui au studio, c'est Olivier Yao Adja de Harakiri. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditeurs, auditrices, bonjour à nos amis donc de Radio Daoul, je vais parler des radios partenaires, et nous souhaitons par anticipation une excellente fête de Pâques à la communauté chrétienne.
Qui dit Radio Daoul dit Pays Bassar, Bassar qui nous a produit, Bande Kossi Francisco Napokura, bonjour.
Bonjour, chers confrères, et bonjour également aux chers auditeurs et auditrices de la nouvelle génération Canal FM et partout dans le monde.
Et le journal Liberté, le seul quotidien qui nous reste aujourd'hui dans le monde privé, depuis que Forum de la Semaine n'est plus là, souhaitons vivement que... liberté soit, que d'autres quotidiens viennent renforcer, consolider la liberté de la presse au Togo. Liberté qui nous délègue aujourd'hui Maouto Gosson Kitomania, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers auditeurs. Que Liberté soit le seul quotidien
privé
n'est pas si réjouissant, en ce sens que nous comptons plus de 8 millions d'âmes et l'idéal serait que dans les conditions normales de pression et de température, qui est un foisonnement de quotidien et non l'unique, et que le reste, même hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, qui soit peine à produire ou à sortir du fait du nerf de la guerre.
La preuve, Liberté qui n'a pas pu paraître aujourd'hui, eh bien, Godson a la barbe fleurie. Il y a un autre confrère, lui c'est pas seulement la barbe, et c'est la barbe et la tête qui fleurissent au jour le jour.
Vous avez deviné avec son nouveau look. Et Sœur Anna Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices.
Et puis, Godson le disait, nous sommes 8 095 498 habitants le Togo. Là-dedans, il y a 51,3% de femmes. Et c'est normal que nous ayons une femme dans ce studio, n'est-ce pas? Roland Diatoubé Akouvi Aziaka, bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour à tous mes confrères. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin dans le beau studio de Canal FM.
Merci. Et comme la pensée du jour pour nous inspirer, c'est le vieux sage Lao Tse qui écrit que la nature ne se hâte jamais et pourtant tout est accompli. Encore une fois, la nature ne se hâte jamais et pourtant tout est accompli. Nous parlons justement de la population togolaise. Nous savons les derniers chiffres du recensement. 8 095 498 habitants, aussi bien les nationaux que les étrangers vivant au Togo. Cela pose des problèmes, notamment la gestion des eaux, aussi bien les eaux que les eaux usées. Cela nous amène donc à cette interview que publie Arakiri aujourd'hui. C'est à la page 4. C'est une interview qu'a voulu accorder à Arakiri le sieur Kossi Komla, qui est le président de l'Association des acteurs de l'assainissement au Togo. Olivier, rebonjour d'abord.
Bonjour, rebonjour, Assas.
Eh bien, le président de l'Association des acteurs de l'assainissement du Togo qui dit qu'il faut pour le Togo au moins une station de traitement des boues de vidange.
Oui, exactement, ça. Et vous savez, une station, une unité de traitement des boues de vidange, c'est une centrale où les gens vont déverser les boues de vidange, donc ils collectent dans la ville, et ces boues sont traitées par ces stations et ça aboutit à des produits finis comme le compost et d'autres matières que nous pouvons donc utiliser dans la vie de chaque jour. Et vous allez à Abidjan, vous allez en Côte d'Ivoire à Abidjan, vous allez au Sénégal, vous avez des stations de traitement des boues de vidange. Dans notre pays, l'État a fait un effort et je crois qu'il y a quelques semaines, on a lancé un programme, un très grand programme de traitement de ces boues-là. Et avec un montant de 935 millions, si je ne me trompe, dans plusieurs villes du pays. Sauf que à Lomé, on n'a pas encore cette centrale de traitement de boues de vidange. Parfois, ça, lorsque vous consommez de vos beaux aliments, et du caviar, ou tout ce que vous aimez, vous les mangez avec beaucoup d'attrait. Mais pour les déverser, personne ne vous voit. Quand vous mangez, vous êtes avec vos amis. Mais pour s'en débarrasser, il n'y a personne qui vous voit. Mais après, vous vous demandez comment c'est, où est-ce que ça finit, ce que vous déversez dans les latrines et WC. On ne se pose plus cette question. Parce qu'on se dit, on a des toilettes à la maison, ça suffit. Mais ça ne suffit pas. Puisque ces déchets doivent aller forcément quelque part. Si vous ne veillez pas à ce que ça soit bien traité, ça reviendra dans vos plats. Puisque si on déverse à l'air libre, soit en temps d'inondation, ça va ramener ça dans votre maison, soit ça va ramener ça dans les nappes phréatiques ou dans les sources d'eau qui vont, peut-être que les poissons vont consommer ou que les maraîchers vont utiliser et ça vous reviendra comme aliment. Donc c'est cette préoccupation qui fait que l'assainissement est une question très importante. Dans notre pays, on sait que les gouvernants, le ministère de l'eau, etc., ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir faire face aux défis, mais quand même, il reste à ce que à Lomé, nous avons produit une vidéo là-dessus. Là où ces bouts de vidange sont déversés, c'est dans le lit du fleuve Zio, et sans aucune protection, alors que vous avez des maisons à côté, et ce n'est pas traité. Donc, c'est pourquoi le président de cette association appelle fortement à ce que ça soit, on ait cette centrale d'ici 2030. Vous savez que 2030, c'est le délai pour la mise en œuvre des ODD. Et nous savons que l'ODDH et 6 plutôt parlent de l'accès à l'eau et à l'assainissement.
Merci. Donc, c'est le président de l'association des acteurs d'assainissement, pour ne pas dire, c'est les gens qui viennent vider nos fosses septiques, qu'ils vont déverser un peu partout dans la nature. C'est celui-là qui en appelle d'urgence à une station de traitement des boues de vidange. Mais au-delà des boues de vidange, Roland Gatoubé à Jaka, c'est le problème de traitement des déchets dans l'ensemble. Au recensement, nous sommes déjà 43% de population urbaine. Nous venons de plus en plus des campagnes. Nous venons habiter en ville. Nous produisons beaucoup de déchets que nous ne traitons pas, que nous déversons dans la nature et qui nous rattrapent sous forme de risque de maladie.
Ça, je suis d'abord, je voulais jeter des fleurs à mon confrère pour cet article et aussi pour cet engagement, pour cet ODD qui est lié à la question des autres ODD. Quand nous prenons l'ODD 6, elle est liée à la réalisation des autres ODD. Sans l'eau, il n'y a pas de vie sur la terre. Ça, et vous avez parlé des questions de gestion même de déchets, ça. Oui. Et dans ce studio, j'avais attiré tellement la sonnette d'alarme. Et vous voyez, quand nous prenons le déchet au niveau d'Agoué, la
décharge publique d'Agoué,
quand on a arrêté les activités, vous voyez ce qui est devenu ce site. Il a parlé qu'on déverse les vidanges dans le lit de Zio.
Oui.
Et là, c'est, on les appelle les wetlands. Les wetlands, ce sont les zones humides. Et ce sont des zones très sensibles et protégées même au niveau international. Si nous n'arrivons pas à protéger nos zones humides, c'est tout un problème d'assainissement que nous aurons. C'est une question de santé publique. C'est au-delà de simple gestion. Donc, la question de déchets même pose une problématique et pour nous, pour les communes du Togo. Aujourd'hui, on a trouvé l'alternative à aller, on a fait l'enfouissement de centre d'enfouissement à Képé.
Dans la V.
Vous voyez, vous avez parlé de la population qui grandit. Quand nous prenons la démographie, est-ce que déjà il y a une étude d'évaluation pour voir dans 10 ans ou bien d'ici 2030, qu'est-ce que ça va devenir cette localité d'Akepe? Et comment on va gérer? C'est tout un problème, c'est une problématique qui touche la vie des citoyens. Et je crois que nous tous, nous avons notre part à jouer.
Eh bien, la population togolaise est à 43% urbaine. Or, en ville, nous consommons beaucoup, oui. Nous produisons beaucoup de déchets, des déchets solides, des déchets liquides, des déchets gazeux.
Tout.
Si nous ne traitons pas et recyclons pas ces déchets, cela risque de nous retomber dessus. Mais autre élément de ce recensement, Godson, le taux de croissance annuel est de 2,3%. Ça veut dire que dans 30-31 ans, la population du Togo aura doublé. Ça veut dire que nous serons autour de 16 millions d'habitants, alors que la superficie du pays n'aura pas doublé, elle. Cela veut dire que, Godson, nous devons savoir nous projeter aussi bien dans la façon dont nous occupons l'espace en construisant nos maisons que dans la façon dont nous produisons l'agriculture pour nous nourrir.
Merci, Sass. Je vais jeter un pavé dans la mare par rapport à mon confrère Olivier. Je suis surpris qu'il parle d'efforts des autorités. Quand lui-même, il avance comme quoi le déversement de ces déchets se fait dans le lit
dans la nature.
Du Zio. Excusez-moi, je suis agent d'hygiène de formation. Et quand j'entends de ces choses, je me demande, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce seulement quand c'est bon qu'on doit en parler? Mais qu'on déverse les déchets dans le lit? Parce que ce lit-là, le fleuve Zio, quand vous allez à sa source, des gens en tirent l'eau potable depuis Palimé jusque je ne sais où.
Oui.
Et aujourd'hui, parce que en temps naturellement, il y aura un traitement, je me dis, on a du pain ou bien une boulangerie sur la planche.
C'est triste, mais...
C'est pas seulement le pain.
C'est pas le pain.
Boulangerie.
C'est une boulangerie qu'on a. C'est quoi le... On parle de la... C'est la question de la santé, ça n'a pas de prix. Okay. Et là, on fait de l'à peu près. Je suis attristé.
Voilà. Et,
non, a... et ça, il m'a interpellé. Je crois que... Et Rome ne s'est pas construit en une seule journée. À peine de vouloir défendre les autorités, je dis seulement que nous venons de tourner. J'ai rappelé pour les efforts qu'il y a eu 900... 35 millions qui ont été investis dans un projet de CFA pour pouvoir et installer des unités de traitement dans plusieurs villes, sauf Lomé. Donc Lomé en a aussi besoin. Mm-hmm. Je crois que la SAGEN nous recommande à faire l'effort d'humilité lorsque nous voulons réclamer quelque chose du roi. C'est-à-dire... Vous comprenez donc, c'est pourquoi nous relevons d'abord ce qui est fait et après nous relevons ce qui reste à faire. Sinon, ce n'est pas encore une erreur de dire que les autorités font des efforts.
Merci. La gestion des eaux sous un angle. Il y a cet article du confrère L'Échiquier qui nous transporte à Dapan. Quand il y a une pluie le 5 avril dernier à Dapan et les eaux de cette pluie sont allés inonder, polluer le marché de Pergou dans la commune de Tône 1. Hein? Dans la région où il ne pleut pas beaucoup. Et quand il pleut, l'eau devient déjà un facteur de discussion, de désagrément. Alors, il y a ça et puis Franco, d'autres aspects du recensement. Sûrement qu'il y a quelque chose qui t'a interpellé, toi.
Tout d'abord, quand nous sommes dans la démarche des propositions, et le quartier du Massessé, puisque nous sommes en train de parler de ville, développement de la ville.
Le micro.
Le quartier du Massessé est en train de bénéficier de quelques ruelles. Quelques tronçons ont été ouverts hier, mais quand vous voyez la vitesse des motos...
Ah, déjà ?
Ah oui. Donc... Il n'y a pas de ralentisseur, il n'y a pas de dos d'âne sur ces routes. Alors que quand vous voyez la route qui quitte le boulevard Yadema pour arriver au niveau des pavés
d'Adéoui, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle communément.
Voilà, vous voyez les écoles et Amour et tout qui est sur ça. Donc on en appelle déjà à l'autorité que les gens installent les ralentisseurs. C'est-à-dire que les dos d'âne pour empêcher les vitesses. Tout à l'heure, quand je venais, SAS, quand vous voyez un peu devant le patronat, en venant de Sarakawa, vous allez voir un camion transportant, camion de 20 tonnes ou 10 tonnes, transportant un conteneur 20 pieds plein. Le camion est paralysé sur la route, est penché.
Non, le camion a paralysé plutôt le trafic sur la route.
Non seulement le trafic, même le camion même est paralysé. C'est-à-dire que les supports arrière sont et c'est penché. C'est-à-dire que juste une vibration ou un autre camion qui passe en force, ça peut tomber. Donc, il faut que les autorités sécuritaires, ceux qui se chargent de cette route-là, fassent vite pour dégager ce conteneur avant qu'il ne tombe. Maintenant,
quand oui, avant les autorités, d'accord, pour ce que tu as dit dans Doumacécé, bien, on pourra toujours installer des ralentisseurs, des dos d'âne, mais rappelons-nous-mêmes, nous citoyens, que la circulation au centre-ville ne devrait pas excéder, dépasser 40 km. Et quand on est en pleine ville et qu'on a autour de nous des écoles, des centres de santé, est-ce qu'on est vraiment tenu de filer à vive allure? Mais est-ce qu'on a besoin encore d'une autorité, d'un ministre pour nous rappeler ça?
Monsieur Sass, les gens forcent aujourd'hui le passage. On voit par exemple un Titan ou bien un camion semi-remorque devant. On veut l'affronter en moto. Vous voyez? On ne sait pas où les gens vont. Donc, peut-être qu'ils ont la photocopie de leur vie et l'original à la maison pour aller chercher après. Mais malheureusement, c'est au cimetière qu'on retrouve les gens ou à l'hôpital dans des conditions désastreuses. Maintenant, en ce qui concerne l'affaire d'assainissement, je ne vais pas revenir sur certains points, mais je dis, on dégage le problème de Lomé pour l'intérieur du pays. Alors que c'est à Lomé que les gens ont plus les fosses qu'on vide. À l'intérieur, d'autres continuent d'aller dans les techs.
Dans les champs.
Dans les champs. Donc, Il faudrait que l'autorité se dise que Lomé-là doit être vite assainie, disons, ces installations doivent bénéficier de Lomé. Et qui contrôle quoi? Depuis 1970, l'ancien maire de Lomé, Sivomé.
Madame Sivomé.
Mais avait, disons, signé un arrêté qui interdisait même de construire des WC, c'est-à-dire que les anciennes fosses là.
Oui.
Mais aujourd'hui, les gens continuent. D'autres, même à Lomé, n'ont pas de WC hein, à la maison. Donc, c'est des problèmes et que l'État doit y veiller encore que maintenant nous avons des communes. Les maires doivent véritablement se mettre au travail pour résoudre définitivement ces problèmes. Lomé a besoin d'une station de traitement. Ce n'est pas la ville, les villes voisines qui pratiquement où les gens n'ont pas de fausses
Merci. Les chiffres définitifs du recensement viennent de sortir, même si c'est un peu global, mais nous avons tout le temps de décliner les données là sous des angles différents et nous interpeller nous-mêmes, nous citoyens, nous pouvoirs décentralisés, nous pouvoirs centrales, nous acteurs politiques, surtout à la veille des élections locales, à la veille des échéances électorales, c'est l'occasion d'attirer l'attention aussi bien de ceux qui se présentent comme candidats et également nous comme électeurs, attirer notre attention pour que le Togo aille de mieux en mieux, n'est-ce pas, Germain Sohara?
Oui, tout à fait. Maintenant qu'on a une idée du nombre que nous sommes, bon, c'est pas une grosse surprise. 8 millions, c'est beaucoup, mais ça ne fait pas encore la capitale du Ghana, qui est au-delà de 10 millions.
Je ne connais pas la population d'Accra. Hein?
Oui, c'est au-delà de 10 millions, okay. Je pense, oui. Donc, après, il y a des problèmes, comme les confrères l'ont dit, l'eau, l'assainissement.
L'habitat.
Et puis, une fois encore, permettez qu'on revienne sur les ordures, le ramassage des ordures. Il faut que les sociétés, elles ne sont pas assez nombreuses, qui sont dans ce secteur-là, s'organisent mieux, mettent plus de moyens pour bien faire le travail et puis que les populations aussi fassent l'effort de s'abonner, peut-être parfois 2000, 3000 par mois, c'est un peu cher, si on peut peut-être revoir, mais il faut faire l'effort de s'abonner. Et moi, je travaille dans un quartier où régulièrement, vous allez voir des tas d'ordures.
C'est quel quartier?
Idranawe.
Idranawe, commune Golf 2.
Oui.
Avec le maire James Amaglo.
Oui, là encore.
Et le pasteur et deux commis qui sont adjoints.
Je vais quand même faire l'effort et je vais faire le même exercice que Olivier tout à l'heure.
Oui.
Le maire James a fait l'effort de doter la commune de poubelles. De très jolies poubelles qui sont installées par endroits un peu partout dans la commune. Mais les gens ne les utilisent pas.
Oui.
Il faut qu'on revienne à ça.
Nous n'avons pas toujours une culture civique et citoyenne en termes de prise en compte de notre environnement.
Le maire a installé des communes. Il a fait poubelles. Il a fait vraiment cet effort-là d'installer des poubelles, mais ce sont des poubelles que les gens n'utilisent pas. Ils préfèrent venir, jeter des ordures à côté de la poubelle que de les mettre dans la poubelle. En plus, il y a c'est un marché aussi, il y a le marché de friperie aussi à côté. Et vous verrez que la nuit, ce sont certains effets, certains des chaussures, des habits qu'on ne peut pas vendre, qu'on brûle. Voilà, donc il faut que le maire redouble d'efforts. Et on a parlé de sensibilisation. Il y a des jeunes associations aussi dans le quartier qui essaient de travailler, mais qui manquent de moyens. Donc ce maire-là collabore avec ces jeunes-là, qui sont dans la défense de l'environnement, qui avaient même avant installé des poubelles avec les bidons jaunes. Là, ils avaient découpé et attaché à des poteaux électriques. Ça, c'est une jeune association dans le quartier qui avait fait cela avant l'installation des poubelles par la mairie. Donc, une fois encore, bon, on félicite le maire et les autres conseillers pour ce travail, mais on leur demande encore de faire mieux.
Merci, nous passons
une
maintenant.
Précision,
oui, Franco.
La population d'Accra, bon, les chiffres de 2021, oui, c'est à 5 400 000. D'accord. Si notre population du Ghana, c'est 30 millions d'habitants.
Et mais pour chez nous, le Grand Lomé, maintenant, c'est autour de
2 millions.
2 millions et consorts. Mais commençons par développer des réflexes et des comportements de ville, d'autant plus que nous sommes dans la capitale. Nous devrions commencer par cette culture-là. Mais nous allons quitter Lomé et aller dans la région de Savane, qui se retrouve au centre de toutes les attentions. Et nous le savons depuis hier que l'état d'urgence sécuritaire vient d'être prorogé de 12 mois. L'Assemblée a accordé le quitus au gouvernement. L'échiquier le rappelle que c'est pour mieux combattre le terrorisme. Encore 12 mois d'état d'urgence dans les savanes. L'Union l'écrit lui aussi, l'état d'urgence sécuritaire, l'Assemblée nationale vote la prorogation d'un an. Togo Réveil aussi en parle à la page 5. L'Assemblée nationale qui autorise la prorogation pour une période de 12 mois avec la nuance que c'est de facto, l'état d'urgence sécuritaire expirait le 12 mars dernier, et on se demande pourquoi l'Assemblée a attendu du 12 mars jusqu'à hier, 6 mars pour acter,
avril.
6 avril pour acter la prorogation. Germain, est-ce qu'on peut nous expliquer ça?
Ah, je ne saurais le dire. Vous savez que la dernière fois, le gouvernement avait demandé 6 mois. Et l'Assemblée avait donné un an.
Non, ça c'était pour l'état d'urgence sanitaire.
Oui, bon, je parle d'état d'urgence, voilà.
Mais il y a sanitaire et puis sécurité. Oui.
Cette fois-ci, l'Assemblée est un peu en retard. Mais c'est vrai que, pourquoi il faut renouveler? Parce que l'état d'urgence, en plus cette situation dans laquelle certaines libertés sont restreintes.
Nous comprenons les besoins pressants. Alors c'est devant ces besoins pressants, pourquoi et le gouvernement et l'Assemblée ont attendu de 12 mars pour venir seulement prolonger
le
6 avril?
Je crois que de toute façon, il a dû avoir déjà une reconduction tacite. C'est sûr que les gens là-bas respectaient toujours
l'état d'urgence. Sauf que ni le gouvernement
maintenant,
ni l'Assemblée ne nous l'avaient pas dit.
Maintenant qu'il fallait formaliser ça par ce vote qui a été fait, c'est ce que je pense. Je ne crois pas qu'à Dapan, les gens se sont autorisés à vivre normalement.
Non, Germain, si j'insiste, n'est qu'une question de forme, mais c'est important. Quand nous voulons état de droit, faisons l'effort. Nous parlions tantôt de culture, mais ayons cette culture de faire les choses en nous tenant strictement aux lois.
Ça,
et ici, nous serons vraiment
état de droit. C'est fait dans les lois, mais pas dans le délai. Peut-être,
qu'il y a eu... À ce propos, c'est en ça que je me dis, est-ce que notre Assemblée nationale joue vraiment sa partition? Je m'explique. Quand il s'est agi de convoquer Manu Militari, les députés, pour écouter l'exécutif, après le rapport de la Cour des comptes, les députés, l'Assemblée n'avait pas encore repris sa session.
Oui,
mais avant, s'est arrangé pour faire venir des représentants du peuple.
Oui.
Mais maintenant, quand il s'agit de la question sécuritaire, on attend que les délais passent. On n'a pas jugé bon de convoquer une session express pour ça. Parce que, personnellement, on va peut-être surprendre. On n'aurait pas acté cette prorogation que nous, à Liberté, on s'interrogerait. Parce que là, il est question de vie, de sécurité nationale. Mais juste pour un rapport de la Cour des comptes, on s'est empressé de faire avaliser des choses. Donc, quand Germain me dit... Il ne saurait expliquer. Je m'attendais à ce qu'il me l'explique, mais bon.
Non, il n'est pas député. Il n'est pas ministre.
Je ne suis même pas député. Ah, mais comme Liberté dit, eux aussi sont en retard pour dénoncer ça. S'il y a eu quelques semaines, ils sont en retard. Ça veut dire eux-mêmes ont oublié.
Oui.
Donc, je dis, dans le délai, ça n'a pas été fait. Mais ça a été fait. Ça nous rappelle que l'Assemblée prend soin de dire, voilà, de faire les choses dans les normes, mais de permettre au gouvernement d'agir de façon exceptionnelle.
Tout ce que nous demandons aux autorités et à nous-mêmes, c'est de faire les choses comme il faut, les normes et dans le temps.
Sauf, voilà, c'est le délai.
Dans les normes et dans le temps, n'est-ce pas?
C'est fait dans les normes, sauf que ce n'est pas fait dans les délais.
La RMP pénalise pour les retards dans les délais. Donc,
Merci, nous continuons toujours avec la région des savanes. Avec cette information qui circule, et que nous rappelle Togo Réveil, à savoir le gouvernement qui vient de lancer un concours de recrutement de 279 agents de santé pour les savanes. Un concours donc direct et régional du personnel paramédical est lancé en faveur des communes de la région des savanes. Alors, c'est pour dire, Franco, que la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement une question des militaires, mais c'est également l'occasion de la prise en compte des besoins et des préoccupations de nos compatriotes de cette région des savanes en termes d'infrastructures sanitaires, scolaires, en termes d'électricité, en termes d'adduction d'eau, en termes même d'agrandissement de l'entretien des pistes pour désenclaver les localités. Que l'État soit plus présent dans la région.
Oui, que l'État soit présent, plus présent et aussi efficace. Parce que la zone de Dapaon, on vient de voir par le recensement que la savane est largement peuplée, puisque même la Cara est la région centrale. Et donc, ce qui dit que la pauvreté, telle que on le constate, et qui aujourd'hui, on dit, amène les gens à collaborer avec les forces du mal, et on a besoin des actions efficaces, et pas le passé. Quand il y a une ONG, on dit c'est Dapaon. Mais quand vous allez à Dapaon, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait, ou bien qu'est-ce que les ONG ont pu faire dans la région des savanes. Même le gouvernement, quand vous voyez tous les rapports qu'on affiche ici, tel projet est là, et on se demande si vraiment l'argent est dépensé de façon efficace ou efficiente. Donc c'est important. Mais il faut regarder les autres également contrées du pays où l'État n'a aucune présence humaine. Et je peux que même vous allez à comment on l'appelle, vous quittez simple Bassa pour aller à Djarbanga, mais vous allez faire 5 heures de temps.
Dans la préfecture de Mo, de la plaine de Mo.
La plaine des Mo, quand je dis Mo, c'est M-A-U et X.
Non, moi je m'en tiens à M-O, à sens de complexe, par rapport à la rivière Mo.
Même, écoutez, même aujourd'hui, si vous prenez la voiture pour aller juste à Kambolé, vous allez faire plus de 5 heures de temps.
Là, ça dans le Tchamba.
Dans le Tchamba.
Et la route est en chantier. Sokoré, Tchamba, Kabolé en chantier. En tout cas, les travaux viennent d'être lancés par la première ministre.
C'est pourquoi nous parlons de l'efficience. Parce que cette route avait été faite, je crois, au cours de 2005, de l'année 2005. Si vous faites une route en 2005 et qu'en 2023, il faut la reprendre, c'est un scandale. Est-ce que vous voyez? Donc, ne jetons pas l'argent par la fenêtre. Investissons vraiment dans le bon travail pour que les populations...
Merci. Toujours la région des savanes au centre des préoccupations. Nous nous rappelons tous que au Conseil des ministres tenu en milieu de semaine, le gouvernement a annoncé, déclaré d'utilité publique une zone de 115 hectares. Et ceci devrait abriter une centrale solaire d'une puissance annoncée de 30 mégawatts. Sauf que le Canard indépendant nuance un peu l'information et parle plutôt de confusion autour de la puissance de la future centrale solaire photovoltaïque de Dapaon. Je rappelle que le gouvernement a annoncé une centrale de 30 mégawatts. Alors que le Canard indépendant rappelle que en février dernier, lors de la signature de la convention de financement de ce projet entre le gouvernement togolais et la Banque mondiale, un article publié sur le site du ministère de l'Économie et des Finances renseigne que la centrale solaire photovoltaïque de Dapaon sera d'une capacité de production de 25 MW crête avec 40 MWh de stockage batterie. La même information a été publiée sur le site du ministère délégué auprès du président de la République chargé de l'énergie et des mines. Alors, Germain et Olivier, il va falloir que le gouvernement nous situe. Est-ce que c'est l'accord de financement avec la Banque mondiale qui vaut? Dans ce cas, c'est la centrale devra avoir une capacité de 25 MW Ou bien, qu'est-ce qui est passé comment est-ce que le gouvernement peut justifier les 30 mégawatts de puissance qu'il a annoncé au Conseil des ministres? C'est vrai que toi et moi, on n'est pas au gouvernement, mais peut-être que par indiscrétion, tu peux nous dire quelque chose, Germain?
Non, on n'est pas du tout renseigné. Bon, là, moi, je n'avais même pas observé cette nuance-là. Mm-hmm. Pour nous, l'important, c'était d'installer cette centrale-là dans cette zone. La capacité est aussi importante. Et donc, comme les confrères s'interrogent, il faut que le gouvernement clarifie un peu la situation.
Mm-hmm. Voilà. Et donc, Olivier, la région de Savane qui fait face au terrorisme, l'état d'urgence sécuritaire vient d'être prorogé de 12 mois. Mais comme on a dit, ce n'est pas seulement les militaires qui combattent le terrorisme. Le gouvernement essaie également en apportant des solutions aux problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés là-bas.
Oui, je crois qu'il faut saluer d'abord le fait que enfin on s'intéresse vraiment à cette région et à sa situation. Vous savez, on a l'habitude de le dire que le terrorisme se nourrit d'abord donc de la pauvreté, mm-hmm. des discriminations, etc. Donc, et nous savons que dans les études et les enquêtes donc, qui sont disponibles, c'est l'une des régions les plus pauvres de notre pays qui manque de beaucoup de choses, les infrastructures, etc. Et il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour la jeunesse. Et au passage, il faudrait remarquer que le Conseil des ministres a annoncé l'entrée en fonction d'une usine de manganèse ou l'exploitation plutôt.
On a créé une société donc, pour
qui va exploiter le manganèse à Nayenga, qui est dans la région des Savanes. Mm-hmm. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger et positivement donc, en faveur de cette région-là. Bon, concernant, vous savez, l'énergie électrique, nous avons dit ici, je crois, c'est à votre micro, que la richesse que nous avons le plus en Afrique, c'est le soleil. Et au lieu d'investir beaucoup dans les centrales, centrales thermiques ou d'exploitation, oui, donc il faut plutôt exploiter l'énergie que le soleil nous offre. Et nos gouvernants plutôt nous ont entendus. Aujourd'hui, on a plusieurs projets pour créer pour exploiter plutôt l'énergie solaire dans notre pays, et solaire dans notre pays, c'est bien. Et maintenant, pour la différence qu'il y a dans la puissance annoncée et finalement actée, je crois que c'est à la hausse, si je me trompe.
Oui, oui. L'accord de financement parlait de 25 mégawatts.
Absolument.
Alors que le gouvernement parle de 30.
Absolument, donc c'est positif, ça veut dire qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Ah oui, je reviens encore à la question de sport. Il y a eu quand même un investissement de plus pour porter la puissance à la hausse. Et cela,
dans ce cas, que le gouvernement nous informe.
Oui, bien sûr, officiellement.
Du complément
du complément, absolument. Et il faut féliciter nos confrères qui ont, en tout cas, fait preuve de vigilance et ont pu détecter cette différence. Donc, c'est au gouvernement d'expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on a pu gagner ou engrager 10 mégawatts de plus.
Et le Canard indépendant toujours nous rappelle que pour le moment, le taux d'électrification dans la région de Savane tourne seulement autour de 22%. Ça veut dire qu'il y a vraiment un réel effort à faire pour relever le niveau de vie de nos compatriotes de la région de Savane, en n'oubliant pas les autres régions, dont les plateaux et les autres.
Il ne suffit pas de crier la paix. Nous devons agir pour la paix, vivre la paix et vivre en paix. Et si nous comprenons ce message des sages, ça veut dire que nos actions doivent se diriger pour préserver la paix dans cette région qui est menacée. Et c'est pas seulement, vous l'avez dit, c'est pas seulement cette région. Quand ça touche une région, c'est tout un pays. Et vous avez parlé de l'énergie. Aujourd'hui, l'énergie, dans la question de la transition écologique, qui devient très important pour les États, c'est un effort à saluer au niveau de la part du gouvernement. Mais il faut véritablement que ça soit transparent, okay, la gestion des fonds,
parce que il faut que ce qu'on apporte à la société ou bien à la population aussi voit clair dedans et participe et surtout co-construire des valeurs. Et la transition écologique aujourd'hui passe par l'accès à l'énergie, qui est loin des facteurs fondamentaux de la transition écologique. Nous sommes dedans et c'est un enjeu majeur pour tous les pays. Et déjà, ce sont des pas qui se font, encourageons les petits pas et souhaitons que ça soit plus de gros pas.
Merci. Des petits pas, nous en ferons de grands. Bandé,
vous avez dit tout à l'heure que à l'horizon 2050, la population togolaise risque de doubler, n'est-ce pas?
Non, je me réfère à ce que l'INSEED avait annoncé à la publication des résultats du recensement.
Quand on voit comment nous occupons nos terres, vous voyez, à Blita, on a pris des hectares. De l'autre côté, ça, c'est des hectares, c'est des terres rurales, d'accord? Et peut-être où encore on prendra demain pour les photovoltaïques. On a centrale Kékéli ici, qui a été inaugurée par le chef de l'État. Normalement, je pense qu'il devait avoir un Kékéli 2, mais jusqu'ici, personne ne sait ce que ce Kékéli-là produit, et produit pour, disons, la consommation en électricité. Est-ce que vous voyez? Donc, la manière dont nous occupons nos terres, regardez comment on construit en surface. On oublie que le sous-sol et la hauteur aussi sont habitables. Et aussi les bassins de rétention qui renvoient les gens des maisons aujourd'hui pour habiter. Où est-ce que nous allons habiter demain? C'est une question parce que la manière dont nous occupons nos terrains, c'est dangereux. Il y a des façons.
Et plus cette question interpelle vivement le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Voilà. Ce ministère a le devoir d'innover et de nous proposer des plans d'occupation beaucoup plus efficients de nos espaces. Et
il faut dédommager les populations. Quand on exproprie, il faut payer les gens chez qui vous avez pris les terres. Parce qu'il y a de ces problèmes qui sont nombreux au Togo présentement.
Merci. Nous allons évoluer vers les échéances électorales avec l'organisation qui devient de plus en plus imminente. Des élections annoncées pour cette année, à savoir les régionales et les législatives. Mais restons un peu du côté de l'organisation même de ces élections avec ce que nous rappelle le Canard indépendant qui dit que nous sommes dans la dernière ligne droite. Enfin, la dernière ligne droite est amorcée avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante qui est déjà en place. Le 6 mars, on avait connu les présidents des CELI, Commission électorale locale indépendante. Cette semaine, nous avons la composition de toutes les 56 CELI et mieux encore, la date annoncée pour le recensement électoral également a été communiquée en Conseil des ministres. Ce que nous rappelle Togo Réveil Germain, ton journal nous rappelle que le recensement électoral se tiendra du 29 avril au 3 juin, en attendant les précisions techniques de la CENI.
Oui, tout à fait. Donc, je crois que les partis politiques s'apprêtent, même si dans certains regroupements, il y a encore quelques hésitations, quelques forces qui tendent à ralentir un peu la participation à ces élections, mais la tendance est là, tous les partis se prépare, la pré-campagne est pratiquement ouverte. On a vu toutes les formations en activité de façon déguisée, donc qui se préparent. Et je crois que le chef de l'État l'avait annoncé en début d'année. Il y aura des rendez-vous électoraux cette année et la CENI qui est chargée d'organiser, de superviser ces opérations-là a déjà donc ébranlé sa machine. Donc du 29 avril, deux jours après l'indépendance, donc le recensement va débuter.
Recensement électoral.
Électoral, oui, pour s'achever donc début mai.
Début juin.
Juin.
Le recensement est annoncé du 29 avril au 3 juin.
Oui. Voilà. l'occasion pour ceux qui n'avaient pas l'âge de voter, qui n'avaient pas l'habitude de voter, qui ont 18 ans depuis quelque temps, donc de s'inscrire, l'occasion aussi d'éliminer de l'ancienne liste tous ceux qui, pour plusieurs raisons, soit ne vivent plus, soit sont dans l'incapacité d'être électeurs, de le faire. Et donc, je crois que avec cette opération annoncée donc en fin de ce mois, on comprend que tout est parti et on espère que toutes les formations politiques vont pouvoir être à ce rendez-vous là. D'ailleurs, la nouvelle loi sur les partis politiques aussi fait obligation aux partis de participer aux élections, sous peine d'être amené à disparaître s'ils s'absentent à plusieurs rendez-vous. On espère voir plus de partis à ces élections. On espère voir peu de boycotts, comme on en a connu donc, entre 2018 et 2020.
Voilà. Germain fait bien de rappeler que la charte des partis politiques rénovée fait obligation aux partis politiques. Si vous êtes parti et que vous ne participez pas à un certain nombre d'élections que le pays organise, cela pourrait vous mettre, pourquoi pas, en difficulté. Et cela nous amène maintenant à cette polémique depuis quelques jours pour ce qui se concerne les partis membres de la dynamique, Monseigneur Pojro. Iront ou n'iront pas à ces élections annoncées. Le Canard indépendant titre aujourd'hui « Élections législatives régionales, la DMK au cœur d'une confrontation de deux logiques ». Et l'article dit que, alors que ce regroupement de partis politiques d'associations a annoncé son intention de préparer les prochaines échéances électorales avec d'autres partis politiques aux besoins de l'opposition, c'est Monseigneur Pojro qui exprime publiquement son désaccord. Et dans sa parution d'hier, le confrère Liberté écrivait à sa manchette que malgré les réserves de Monseigneur Pojro, la DMK réitère sa participation aux prochaines élections législatives. Hier, nous avons reçu dans cette émission spéciale la coordinatrice de la DMK, Madame Adjamambo Johnson, qui s'est longuement exprimée sur le sujet. Mais entre journaliste Godson, les partis membres de la DMK, est-ce qu'ils iront ou n'iront pas aux élections annoncées?
Bon.
Le micro.
Excuse-moi, ça, pour nous, ce n'est pas tant la participation ou non de la DMK qui nous importe, surtout pour les élections régionales. Mm-hmm. Je reviens un peu en arrière pour parler des préparatifs de cette élection. C'est quoi la vision que nous avons pour notre pays, SAS? Un pays sous-développé. Mais qui a mobilisé moins d'un milliard pour les traitements des boues à l'intérieur du pays, mais qui n'en a pas pour la capitale? Mais qui veut mobiliser des milliards pour deux élections dans cette année? Ça, soyons sérieux. Ce n'est pas parce que c'est l'exécutif qui a décidé que moi, le citoyen, je n'ai pas le droit de m'en offusquer. C'est quoi le problème? Des pays ont eu à installer un Sénat. Mais après, ils ont trouvé que soit c'est budgétivore ou alors ce n'est pas indispensable. Mais pour le Togo, selon mon analyse personnelle, c'est très important pour une partie des Togolais, la mise en place du Sénat à travers les régionales. Parce que là, quand vous lisez les articles relatifs au Sénat, mais il y a beaucoup d'immunité pour beaucoup de personnes qui vont siéger dans le Sénat. Et donc, pour vous et moi, l'Assemblée nationale, déjà, elle n'est pas encore à niveau. Maintenant, on va la coupler avec le Sénat pour qu'on ait un Parlement. Il y aura combien de sénateurs? Ils gagneront combien? Quel budget on va encore mobiliser pour cela? Au-delà de leur émolument, mais
C'est tout un ensemble. Ça va demander des sous.
Donc, pour toi, le Sénat risque de se révéler budgétivore.
Pas seulement.
Et pas si important que
le
ça.
Citoyen, le Togolais souffre. Le problème du Togolais, ce n'est pas l'installation du Sénat. Excuse-moi, Sass.
Mais Godson, on te rappellera qu'il est inscrit dans la Constitution, depuis 92, que le Togo doit se doter d'un Sénat.
Tout comme il est inscrit dans cette même Constitution que depuis, le Togo doit disposer de la Haute Cour de Justice. Pourquoi on ne l'installe pas? Réponds-moi ça. Pourquoi on n'installe pas d'abord la Haute Cour de Justice, qui est censée mobiliser... imposer la transparence dans la gouvernance du pays.
Tu as raison. On peut même ajouter que c'est la même constitution qui dispose que le Togo doit avoir un conseil économique et social.
Merci beaucoup, ça. Je t'embrasse. Je t'embrasse.
On te dira qu'il faut quand même commencer quelque part.
Progressivement.
Bon, en fait, maintenant la question sur
la... Il n'a pas répondu. Il ne s'est pas intéressé à la question.
Maintenant, tu veux nous rappeler qui est la participation de la DMK. Oui.
C'est un regroupement de partis politiques.
Et d'associations.
Je ne crois pas que c'est le premier regroupement au sein duquel il y a des dissensions. Mais à la fin, il y aura une décision collégiale qui va primer. Donc, si on estime que, à liberté, soit nous prenons parti, ou on prend fait cause pour un parti politique, libre à ceux qui veulent le penser. Mais nous avons nos jugeotes. On analyse. Les élections législatives passées auront enseigné des choses à des responsables, des regroupements de partis. Mm-hmm. Si vous n'y participez pas, ne venez pas vous plaindre après. Merci. Et donc, bon vent à ceux qui veulent.
Je rappelle juste que le 31 mars, les partis membres de la DMK ont sorti une déclaration où ils trouvent que, en leur sens, ils ne trouvent aucun intérêt pour les élections régional. Par contre, pour les législatives, ils ont demandé un certain nombre de mesures à mettre en place, avec même ouverture à d'autres partis politiques d'y participer. C'est suite à cela que Mgr Podjuro a dit qu'il était hors de question qu'un regroupement se revendiquant de son nom participe à ces élections. Et cette semaine, la DMK a encore sorti un communiqué pour préciser sa pensée, et je rappelle que hier, Mme Adjiambo Johnson était à nos micros ici pendant 90 minutes pour s'expliquer amplement sur la question. Alors, Olivier, est-ce que tu estimes que le débat est clos ou bien que c'est maintenant que c'est parti pour la polémique?
Non, le débat n'est pas clos. Pas seulement forcément autour de la DMK, mais bon, de cette des échéances à venir, des élections qui concernent tous les Togolais. Et nous devons en débattre et savoir ce qui se fait. La DMK aussi, c'est une formation ou un gros groupement de formations politiques qui nous intéresse. Qu'on soit proche ou non de la DMK, et les sujets nous concernent au premier plan.
En tout cas, ils animent la vie politique depuis au moins 3 ans. Et
donc, nous avons la possibilité d'en parler. Et je crois que, j'ai eu la chance de le dire déjà ailleurs, que c'est un regroupement qui est un mélange de crabes et de crapauds. Et ils ne peuvent que se consommer ensemble. Parce que, vous savez, un prélat, et sa fonction première, c'est de diriger les troupeaux vers le salut. Et donc, et le prélat a tout le temps de se promener avec son peuple dans le désert pendant 40 ans. Et même si c'est à 15 mètres de là, il peut faire le tour. Donc, c'est pour dire qu'il n'est pas pressé pour aller conquérir le pouvoir et l'exercer. Alors que ce n'est pas la même situation pour une formation politique qui est créée d'abord pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc, si bien que leur vision, il y a deux entités dont les visions sont diamétralement opposées. Alors, les intérêts ne peuvent pas converger. Donc, comprenons là déjà que la DMK a en son sein les germes de ses propres problèmes. Et de deux, c'est un regroupement circonstanciel. C'est un regroupement qui a été créé pour porter quelqu'un à une élection en 2020. Et cette élection, nous savons comment ça s'est déroulé. On ne va plus revenir là-dessus. Mais quand même, La circonstance est déjà passée. Je crois que 2020, avec ses réalités. Aujourd'hui, on a 2023. Bon, et troisièmement, c'est que la DMK porte le nom d'une personne, c'est-à-dire Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjo. Et son nom, il a droit de regard sur ce qu'on en fait. Si vous voulez amener son nom dans un marché où il n'aime pas aller, parce que peut-être il y a des esprits là-bas qui le gênent, il vous dira, n'amenez pas, en allant dans ce marché, ne prononcez pas mon nom. Donc, en allant à cette aventure des élections législatives et locales, et Monseigneur Philippe Fanoko Kpodjo demande à ce que voilà, le regroupement ne porte pas son nom. Mais il a ajouté que même s'ils si vont sans son nom, il va quand même faire campagne contre eux. Si bien que ils sont pris dans un cercle vertueux où je ne sais pas comment ils vont faire. Mais la seule solution, c'est de laisser tomber le nom DMK pour porter les noms de ces regroupements. Certainement qu'ils vont trouver une solution à ça. Mais aussi, je me pose la question de savoir si peut-être la DMK ou le nom n'est pas un fonds de commerce très juteux pour ceux qui sont dans le regroupement. Puisque on sait que le prélat, voilà, il est écouté dans les chapelles d'une certaine église. Donc, est-ce que ça ne peut pas apporter plus de voix? Est-ce que si on laisse tomber, on aura ces voix-là? On va pas se sevrer de ces voix-là. Donc, il y a un dilemme.
Est-ce que Dariorien continue avec son nom ou bien en s'en départissant? L'avenir nous le dira, mais Franco, quelle est la lecture de cette polémique au sein de la DMK?
Non, Olivier l'a dit, c'est le nom Kpodjo. Il faut laisser le nom Kpodjo. Et si la constitution ou le code électoral oblige les partis politiques à aller aux élections, et à eux de voir, parce que ces élections, parfois, on se pose des questions. Et on l'a toujours dit, faut-il aller à une monarchie constitutionnelle pour faire de l'économie? Et vous voyez, la semaine dernière, il a fallu qu'un président de la Banque mondiale arrive en nous annonçant 60 000 tonnes d'engrais, dont une partie.
Non, c'était 34 000 tonnes, le chiffre qui avait été annoncé.
Ok, 34 000 tonnes, regardez comment on a dansé. Alors que nous allons prendre. Des milliards pour un business, quelque chose qui ressemble à un business électoral. Il faut qu'on pense vraiment où on veut aller. Vous allez voir, regardez, nos hôpitaux, on vient d'en parler. La dernière fois, c'est la France laquelle nous crions tous les jours qui vient dire qu'elle nous avance, c'est un prêt, 70 milliards pour réhabiliter l'hôpital de Cara. Et c'est sur campus. Ça veut dire que nous-mêmes ne sommes pas capables de le faire. Mais quand il faut organiser les élections sur fonds propres, tout le monde saute de gauche à droite. Il va falloir qu'on réfléchisse vraiment à quoi vont servir tout ce qu'on est en train de saigner les populations à travers la pression fiscale, les péages, vous voyez, le carburant. Hier, j'étais avec des étrangers qui ont vu le prix du gaz. Ils ont crié, ça fait 3 bouteilles chez nous. Vous voyez, tout cet argent-là, on peut l'économiser et faire lutter contre la corruption et éviter d'aller chercher de l'argent en désordre.
Merci. Nous allons écouter aussi, Germain, rapidement sur le débat au sein de la DMK.
Alors, le débat au sein de la DMK, je crois que, comme Olivier l'a dit, l'archevêque a raison de dire de ne pas utiliser son nom. Et puisque d'abord, il n'est plus au pays, il avait battu campagne pour ce regroupement lors des locales au sein de la C14. Il avait fait campagne pour ce regroupement. Il a fait campagne pour un parti politique lors de la présidentielle. Mais je ne pense pas que la DMK est une organisation enregistrée au ministère de l'administration territoriale en tant que groupement de partis politiques. Ce n'est qu'un nom que les gens utilisent. Au départ, on a associé le Saint-Esprit à ce nom jusqu'à l'échec de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, je ne sais pas vraiment si c'est un nom qui se vend encore. Mais je pense tout simplement que les partis qui sont encore là n'ont qu'à se battre pour s'affirmer, parce qu'il faut le dire aussi, la plupart des partis qui sont au sein de cette dynamique-là ne pèsent pas politiquement. Ce sont des partis qui ont toujours profité des regroupements, hein, de la C14, de la dynamique. Aujourd'hui, ils sont obligés d'aller individuellement se battre sur le terrain électoral, et ça sera un exercice assez intéressant pour ces partis. Quand on prend la CDPA, c'est un parti qui est en difficulté.
Partis aillent aux élections individuellement, voilà, ou bien en regroupement. À la fin, on verra le score que chacun aura réalisé.
Quand j'écoute mes confrères sur les élections, qu'ils comparent à un gaspillage, je suis un peu surpris, parce que je suis sûr que Godson sera le premier à réclamer les élections si la date arrivait et que le gouvernement n'organisait pas les élections. Non, ce sont des rendez-vous.
Ce sont des rendez-vous républicains.
Et comme on a commencé par le dire
à l'Assemblée pour la prorogation de l'état d'urgence sécuritaire, voilà, nous veillons à ce que les choses se passent dans les normes et dans les délais.
Il y a eu même les législatives de 2013, je pense, qui devaient se tenir un peu plus tôt, qui ont été reportées pour plusieurs raisons. Donc, mais après, ça a été une entente politique. Maintenant, pour le financement de nos élections sur fonds propres, mais on devrait plutôt se réjouir qu'on les finance plutôt que de tendre la main à l'Union européenne comme on l'a fait pendant des années. Et les dettes, mais la France qui est venue nous passer 50 milliards pour les deux CHU.
70 milliards
pour les deux CHU. Mais elle est aussi endettée.
Elle est endettée, mais elle continue à nous prêter.
Mais nous, on en a donné.
Voilà la différence de nuance.
Mais nous, on a donné à la Turquie de l'argent.
Ça veut dire que
c'est grave. En réalité, tous ceux qui donnent aussi ont des problèmes. Nous donnons l'impression que la France
a réussi à arracher le rire à tout le monde. Et c'est une bonne chose. Il est midi. Je voudrais, avant la pause, quand même faire rapidement cette revue de presse sur l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui veut toujours en faire plus. Revue de presse rapidement avec je me perds un peu dans mes papiers, mais enfin, vos journaux donnent les chiffres que l'OTR a réalisés.
865.
Ah oui, je crois que c'est Harakiri qui l'a écrit. L'OTR qui a récolté plus de 865 milliards de francs CFA en 2022. Togo Réveil aussi nous dit que pour cette année 2023, l'OTR veut passer de 865 milliards à 912 milliards. Et Canard Indépendant qui écrit que rien que pour le premier trimestre 2023, l'OTR a mobilisé 105% par rapport aux prévisions. Donc l'OTR qui veut mobiliser davantage de moyens au service de l'État. J'ai même une indiscrétion que l'OTR veut dépasser le milliard de francs CFA en 2024.
1000 milliards.
1000 milliards. 1000 milliards en 2024. On n'a pas le temps d'en débattre aujourd'hui. Ce sera avec d'autres confrères ou bien vous dans une semaine, si Dieu le veut, ce dont je ne doute pas. D'ici là, une petite pause.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, il est 12h passé de 5 minutes. À présent, nous ouvrons les micros à vous, chers et fidèles auditeurs. Le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Vous nous faites revisiter les sujets discutés par vos commentaires ou vos questions au besoin. Il y a déjà un premier auditeur. Ok, en entendant le premier auditeur, Godson, peut-être un petit commentaire sur l'OTR qui était à 865 milliards en 2022, qui veut dépasser 912 cette année 2023 et aller à 1000 milliards en 2024.
Bon, ça, tu sais, il y a des gens qui me représentent, qui se disent représentants du peuple à l'Assemblée. Quand l'exécutif fait ses prévisions, il leur revient en commission de faire un travail de fond pour savoir si ces mobilisations sont justes, sont raisonnables ou pas. Mais quand après, l'exécutif prend ses communiqués, moi, le citoyen lambda, que je le veuille ou pas, je ne peux que, à la rigueur, m'en indigner. Mais, comme on le dit, le chien aboie, mais la caravane passe.
Donc, pour rester neutre, tu constates tout simplement. Merci, l'auditeur qui est en ligne. Ah, pas encore. Peut-être aussi également, Franco, sur les prouesses de l'OTR d'année en année.
Est-ce que c'est des prouesses? On dit trop d'impôts tue l'impôt. C'est une réalité. Et d'année en année, on ne fait que saigner les populations. L'activité économique de 2020 à ce jour n'a pas pour autant évolué. D'accord? Mais on continue de dire qu'on collecte plus. Donc on appauvrit la population, les populations. Pouf, en faire quoi?
Merci c'est Franco. Que... L'auditeur qui est en ligne a aussitôt annoncé, aussitôt parti. Ok, en attendant, l'auditeur Germain aussi sur.
Non, je pense qu'il y a un grand dynamisme au niveau économique malgré les crises sanitaires et la crise liée à la guerre en Ukraine. Il y a plus d'entreprises qui se créent. Certaines ne prospèrent pas forcément, mais il y a de nouvelles entreprises qui viennent, et ce qui fait que aujourd'hui l'OTR aussi essaie d'élargir l'assiette fiscale. Donc maintenant, pour nous, par exemple, moi je ne peux encore payer mes impôts cette année. Hein. Je dois le faire, c'est une pression.
Vous avez la pénalité.
Merci pour cet aveu. L'auditeur en ligne, bonjour.
Ouais, ça c'est bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Vraiment, nous sommes dans la semaine sainte, que Dieu vous bénisse.
Ah hein. Oui.
Voilà, c'est l'évangéliste Senghor, s'il
oui,
vous plaît.
Oui.
Bon, je dis, hein, ça.
Oui.
Bon, est-ce que ça ne serait pas bon que, à la fin d'émission, vous, les journalistes, surtout vous, SAS, qui animez hein, des sujets, ou après hein, l'émission, vous allez prendre un sujet, vous allez quand même faire des analyses. Hein, ça dit que, bon, ce que le gouvernement fait qui est bien, vous allez le dire, ce qui n'est pas, il ne fait pas qui est bon.
Mais c'est
bon,
ce que nous faisons chaque jour que Dieu veut, l'ami Senghor. Quand nous prenons un sujet, nous relevons ce que le gouvernement fait et nous en dégageons également les insuffisances ou les besoins d'aller de l'avant.
S'il vous plaît, je parle de vous-même. Ça dit que, hein,
oui.
Ça dit que si vous nous laissez nous-mêmes les intervenants parler, hein, vous voyez, non? Donc après l'émission maintenant, ça dit qu'un bon des journalistes, vous qui avez animé l'émission, vous allez dire, vous allez faire la conclusion, quoi. Hein, comme ça se fait quand même dans les. Excusez-moi. Vous n'êtes pas le seul, là, je passe ça pour que ça serve aussi à tous les journalistes quand même, que ça se fait dans les autres pays, s'il vous plaît.
Non, les émissions que je suis également chez les confrères, ils font juste le point de l'émission. Il ne revient pas aux journalistes hein, de faire la conclusion en relevant les bons points, les mauvais points des uns des autres. C'est ce que nous faisons tout au long de l'émission sur chaque sujet. Vous avez suivi, par exemple, le problème de le projet de la station photovoltaïque de Dapaon. Nous sommes partis du gouvernement avec des questionnements sur le financement, sur le traitement des déchets, hein, les efforts du gouvernement, mais là où encore on doit aller de l'avant, laissez-nous faire notre travail sans parti pris et nous en serons tous quittes. Et un deuxième auditeur. Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est M. Léopold de Noukafou.
Léopold de Noukafou, nous vous écoutons.
Hier, j'avais posé une question avant-hier, j'allais dire, par rapport à la démographie. C'est-à-dire, vous parlez de 8 millions de Togolais.
8,095,498.
Voilà, j'aimerais savoir, vous venez de dire que vous avez les chiffres de façon globale. Est-ce que vous pouvez me donner d'abord certains, par rapport... aux non-Togolais. Ce que je dis par là, quand ils ont fait les statistiques, ils n'ont pas demandé les cartes nationales d'identité ni les nationalités. Je voudrais savoir combien sont des immigrants au Togo. Vous avez posé la question, on ne m'a pas répondu. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est par rapport à la dynamique Podro.
Oui.
Je pense que vous avez tout dit. Hein. On ne va pas revenir là-dessus. Seulement, nous voulons qu'au Togo, que les choses soient réelles. Qui est la vérité? Sinon, la vérité finit tout par nous rattraper. Donc, j'aimerais demander à Germain Pouli de nous aider à réussir donc, cette démocratie que nous voulons. Parce que nous n'avons pas encore la démocratie, ni la République. Puisqu'on parle de République, on parle de démocratie. C'est deux entités différentes. Mais on ne sait pas au Togo... Quel est le régime ou le système de politique au Togo? Vous pouvez me répondre si vous avez
connaissance. Quant au régime politique, vous le savez aussi bien que nous, tout est inscrit dans la Constitution. Mais non, par contre, ce que vous dites sur le recensement, c'est pertinent. Et nous allons approcher l'INSEET, puisque le recensement concernait toute la population, aussi bien les citoyens que les étrangers. Nous allons approcher l'INSEET, si on a pu faire la part du pourcentage disons des étrangers parmi nous, tout ça là. À moins qu'un confrère ait déjà une indiscrétion ici.
Non, généralement, on ne tient pas compte des nationalités, mais après, il y a les ambassades, il y a les consulats qui ont une idée du nombre de ressortissants.
Merci. Vous l'auditeur qui est en ligne. Bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon patron.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
D'accord. Monsieur, moi, j'ai une petite question.
Mm-hmm.
C'est bien beau, je veux parler de l'OTR. Hein. C'est bien beau que les citoyens payent leurs taxes, c'est normal. Mais en revanche, qu'est-ce que l'État même fait pour que ces citoyens qui payent ces taxes-là puissent aussi vendre par conséquent pour mieux payer? Parce que à chaque année, je constate que l'OTR donne, c'est-à-dire, ou bien l'OTR estime des fonds à mobiliser. Mais en retour, et tenez-vous bien, et il réussit aussi, c'est bien beau, c'est pour le développement du pays. Mais en retour, ces pauvres citoyens qui payent, malgré leur économie faible, qu'est-ce que l'État fait pour que les débouchés peuvent s'ouvrir, pour que cette population ne souffre pas jusqu'à l'infini?
Merci. Un confrère qui veut répondre à l'ami Patrick?
Non,
Franco.
Oui, donc sa question est très importante parce que normalement, la mission de l'OTR, des impôts, ce n'est pas seulement fixer les taxes, ce n'est pas seulement aller collecter les taxes. Il y a un travail qu'il faut faire pour accompagner les opérateurs économiques, pour booster l'activité économique, ce qui fait que le retour n'est pas saignant comme ce que
le travail de booster l'économie, est-ce que c'est le devoir de l'OTR ou plutôt du gouvernement?
C'est le gouvernement. Attendez, je vais vous le dire. Et Germain vient de parler de l'élargissement de l'assiette fiscale.
De l'assiette fiscale, oui.
C'est des systèmes qui permettent d'alléger quand on a, c'est-à-dire qu'on fait on élargit l'assiette fiscale, c'est qu'on fait chuter la contribution, par exemple, de chacun.
Donc, c'est pas ça l'élargissement.
Attendez, Germain. nous allons nous occuper de cet aspect qu'il a évoqué parce que nous avons déjà commencé.
Peut-être un prochain jour, nous allons inscrire ce sujet à débattre durant l'émission elle-même. Un auditeur en ligne, pas encore? Ok. Nous allons continuer à évoquer rapidement quelques articles qui pourraient vous intéresser. Olivier Arakiri, sorti aujourd'hui.
Allô?
Oui, oui. Bonjour.
Bonjour, chef.
Oui.
Je vous appelle depuis Kanté.
Depuis Kanté?
En direction avec Radio Sama FM.
Ah, chef lieu de la préfecture de la Kéran.
Oui.
Ça nous fait chaud au cœur d'être connecté avec tout le Togo.
Voilà. Mm-hmm. On vous invite demain pour la fête de Sintou Gendjagou.
Ah, c'est quand la fête?
Ah oui, c'est le week-end.
C'est demain.
Cher ami. Et vous attendez juste la veille?
Vous animez et puis Radio Sama est connecté chaque fois.
Oui.
Et on ne vous a pas invité.
Ah, vous aurez dû nous inviter beaucoup plus tôt, comme ça nous aurions pris les dispositions.
Vraiment, je suis désolé.
Non, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise.
La fête, c'est tous les jours.
Je vous remercie beaucoup pour l'émission.
Je vous en prie. Oui.
Pour vous saluer.
Bonne fête à vous.
Merci beaucoup. Mm-hmm.
Oui, Olivier Arakiri, un article. Vous nous passez un dossier sur l'adoption ou la traite ou trafic des enfants au Togo, l'état des lieux. Un article qui doit être intéressant, Olivier.
Oui, absolument. Vous savez, les questions d'adoption, du trafic des enfants, et tout autre intéresse les gens, les parents que nous sommes.
Oui.
Donc, nous sommes allés aux nouvelles pour savoir quelles sont les procédures qui sont appliquées dans ce domaine.
Et le dossier est à consulter dans Harakiri. L'auditeur, allez-y, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
Et monsieur Emmanuel.
Emmanuel.
Oui.
Nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Dabarakondji.
Dabarakondji, nous vous écoutons.
Oui. Moi, c'est par rapport à la TVM, là.
Mm-hmm.
Bon, c'est... Au fait, ils disent que la dernière fois, j'avais suivi un personnel de l'OTR. Bien, je ne sais pas si c'est l'OTR ou bien quelqu'un qui travaillerait avec eux, quoi.
J'avais reçu des directeurs de l'OTR, oui.
Bon, qui dit que même si vous n'avez pas utilisé votre véhicule pendant un an, à supposer que le véhicule était tombé en panne,
oui.
Toute l'année, vous ne l'avez pas utilisé. Et l'année suivante, vous serez obligé de payer pour l'année écoulée,
oui.
Et payer également pour l'année en cours.
Oui.
Bon, ça là, c'est ça qui me...
Il avait expliqué, si quelqu'un doit immobiliser son véhicule, il faut qu'il le déclare au niveau de l'OTR.
Ah, d'accord.
Il faut déclarer si le véhicule est au garage ou bien que pour une raison ou une autre, vous n'allez pas utiliser, vous allez vous-même à l'OTR, vous le déclarez. Et comme ça, vous entendez le jour, vous le reprenez. Et c'est à partir de ce jour-là qu'on va prendre ça en compte.
Ah, merci beaucoup. Ça
je vous en prie, je vous en prie. Et bonjour à tous nos amis de Dabarakondji. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Comment vous allez?
Ah, comme vous nous écoutez.
Que Dieu vous bénisse à tous ceux qui sont sur le plateau.
Amen.
Ben de Thévier.
Ah, Thévier, quel quartier?
Oui, Davier.
Davier.
Ouais, ouais.
Uh-huh.
Oui, je vous en prie. Pour le cas de DMK là.
Oui.
Si vous avez sur votre parti que je vais aller travailler sur le terrain pour aller conquérir sur le pouvoir un jour, est-ce que c'est de la peine de prendre le nom de quelqu'un pour aller à l'élection? Non! Il faut que tous les membres du DMK, là, NACA, se retournent en arrière. Mm-hmm. Et les partis qu'ils ont signés avec eux, non, Seigneur Kodjo, il n'a qu'à aller régler ce problème-là à leur niveau.
Mm-hmm.
Il n'a qu'à laisser les peuples togolais. C'est comme ça qu'ils faisaient depuis 2018, et là, que les gens sont découragés pour ne pas aller aux élections. Mm-hmm. Donc, il n'a qu'à laisser nous les restes qui n'ont pas signé PATA ou à quelqu'un, non. Donc, il n'a qu'à nous laisser.
Mm-hmm.
Ok, merci.
Merci beaucoup. Merci à vous tous qui avez pu... entrer en ligne. Nous allons revenir ici, faire un rapide tour de table parce que je sens que les gens sont déjà impatients d'aller au chemin de croix. Commençons par l'homme à la barbe fleurie, Godson Mautok Tomanya. Une minute pour ta conclusion de l'émission.
Bon. On a fait le tour. Nous avons écouté les auditeurs. Je crois que nos autorités nous ont prêté oreille et qui sauront tirer le meilleur de tout ce qui se dit à votre émission ici.
À notre
émission.
Voilà, toi, à moi et à nous là.
Quant à ce qui nous concerne, nous ne cesserons jamais de le dire. Si ça marche, on le dira. Mais quand ça ne va pas marcher, qui compte sur nous pour tirer la sonnette d'alarme?
Ce n'est que le devoir de la presse de jouer à la veille et à l'éveil. Bande Francisco Napokura.
Oui, juste pour rappeler à mon confrère Germain Pouli que si la France a un peu prêté de l'argent au Togo ou la Turquie, c'est qu'en France ou en Turquie, lorsque vous faites, il y a un accident et que les sapeurs-pompiers viennent vous prendre, et on commence les soins dans le, comment l'appelle-t-on ?
L'ambulance.
Dans l'ambulance, d'accord ? Ce n'est pas ici comme le transport de personnes. Et quand on vous amène à l'hôpital, les soins continuent. On ne vous demande pas d'aller payer d'abord les bons de consultation avant de commencer. Ça veut dire que nous n'avons pas atteint ce niveau de donner de l'argent aux autres. Donc, ce que nous prenons chez les autres pour dire que nous allons faire ceci, il faut qu'on le fasse bien et qu'on fasse des tests de sorte que ces histoires du Sénat... qui sont des budgétivores, et même l'Assemblée nationale, avec autant de députés et des mairies qui n'ont même pas encore de locaux. Vous savez, tout ça, là, c'est des dépenses. D'accord? Donc, alors que Le pays a besoin de l'argent pour des infrastructures sanitaires et autres scolaires.
Voilà. Je trouve, pauvre Germain, tout ce que tu as dit, Franco, c'est pas Germain, ça doit s'adresser à d'autres personnes.
Non,
ok, Germain.
Non, il m'a fait l'honneur de me charger de transfert. Non, je crois qu'on a besoin de toutes ces institutions. Le Sénat, on pouvait dire, on peut s'en passer. Les maires aussi, on peut dire qu'on peut s'en passer. Le gouvernement central peut tout faire, mais je crois que chaque institution a son rôle. Et puis, je crois qu'au niveau du Sénat, il s'agit quand même des personnalités qui ont un certain parcours politique, qui ont une certaine expérience. Ça permet aussi aux gens de quitter les affaires pour aller beaucoup plus rester au Sénat et faire profiter de leur expérience aux autres. Et puis, en tant que sénateur, je crois que tous les anciens présidents, selon la loi, sont des sénateurs, par exemple. Donc, ils seront au service de l'État.
Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas, il y en aura.
Vous êtes sûr?
On ne fait pas. De toute façon, on ne fait pas la loi.
La loi dispose pour l'avenir.
Voilà. Oui. Donc, je crois que de toutes ces institutions, on en a besoin, c'est vrai. On a peur pour le budget. Soit on change de régime, on arrête de se calquer sur les régimes occidentaux, on fait un truc à l'africaine. Avec l'arbre à palabre, avec le chef du village, un certain nombre de choses. Si on peut revenir à ça, ça serait une bonne chose. Mais il y a des valeurs communes aujourd'hui qui sont démocratiques, même si elles ne sont pas parfaites, auxquelles nous aspirons tous. Et donc, je crois qu'il faut se donner les moyens de le faire. Et si le Togo arrive à mobiliser.
Il y a Olivier.
Oh, bon, moi, je vais m'intéresser donc à l'adoption des enfants et saluer d'abord le Comité national d'adoption des enfants qui suit le processus. Et nous savons qu'il y a l'adoption nationale et internationale. Aujourd'hui, selon les chiffres, il y a jusqu'à 350 enfants qui ont été adoptés depuis la création du comité, c'est-à-dire en 2008 au Togo, et plus par l'extérieur qu'au niveau national. Donc, il y a des enfants qui ont des soucis ou qui ont des difficultés, qui sont pris en charge dans les structures donc, d'accueil. Et ces structures-là aussi qui nous ont confié leurs difficultés. Et vraiment, éduquer un enfant, c'est difficile. Donc la société, le gouvernement et tout le monde, ces structures-là nous font appel. Aidez-les à éduquer nos enfants qui sont la relève de demain.
Merci. On termine par la maman de l'émission. Là où il y a une femme, elle est la maman de tout le monde.
Absolument.
Même s'il y a des gens qui auraient pu être son papa dans ce studio. Il y a tout.
Alors, merci beaucoup. C'est impressionnant quand j'écoute les débats politiques. Et je voulais dire, à part toutes les luttes de pouvoir, ce qui nous réunit, c'est notre terre commune, qui est le Togo. Et j'espère que les élections qui arrivent, ils vont prendre en compte les questions qui concernent la gestion de notre terre commune. Nous avons parlé des questions d'assainissement, des questions de santé publique, la question environnementale, ça tient à cœur et j'espère que ça sera aussi au niveau des débats politiques pour que véritablement on rentre dans une transition écologique qui profite à tout le monde.
Merci. Le Club La Presse voudrait saluer et remercier les auditeurs, souhaiter un bon Triduum Pascal pour les chrétiens. Et notamment les catholiques qui vont incessamment aller au chemin de croix, l'occasion pour nous de saluer deux honorables amis. Le premier, c'est le professeur François Gado Agadazi Napokura, notre cher ami. Quand il était au ministère, nous le sollicitions, il était souvent à notre studio ici. Professeur Napokura, à vous-même, à votre épouse, à vos enfants et petits-enfants, le Club La Presse souhaite un bon temps, Pascal. Même chose que nous souhaitons à un autre ami, Monsieur le Président Patrice Akakbovi Gamato, ancien président de la Cour suprême, à vous-même, à votre épouse et à vos enfants, vos petits-enfants, le Club La Presse, que vous avez honoré une fois aussi en vous déplaçant ici en personne, vous souhaitons une bonne fête. Et à travers François et Patrice, à vous tous, auditeurs, auditrices, un bon chemin de croix, bon temps Pascal. Le Club La Presse, nous nous retrouvons le mardi prochain, si Dieu le veut, et le Christ qui va ressusciter dans quelques jours le voudra certainement.
Amen.